Bien sûr, Camille Aéry, avocat au barreau de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre.
Alors, l'un des chapitres du rapport sur les quatre défis de l'avocat français du XXIe siècle est construire la communauté des juristes et fait référence à la mobilité de l'avocat. Selon vous, comment rendre l'avocat français mondialo-compatible et notamment quels sont les atouts de l'avocat français sur le marché du droit ?
C'est une très belle question. D'abord, la question de la mobilité est une question absolument essentielle. Lorsque nous avions nous-mêmes fait notre rapport pour Jean-Jacques Urvoas, le terme « mobilité » revenait très souvent dans la bouche des personnes que nous avions auditionnées. Le terme « mobilité » qui effectivement fait référence à une mobilité mondiale, mais également à une mobilité à l'intérieur de la profession, mais aussi à l'intérieur du spectre le plus large des talents juridiques et judiciaires. C'est-à-dire qu'il y avait le désir chez les personnes que nous avions auditionnées de pouvoir quitter la profession pour exercer une autre forme d'expression du talent juridique en entreprise, chez un régulateur, puis revenir dans la profession. Donc d'abord, sur les moyens que vous évoquez, il faut permettre les passerelles entre notre profession et d'autres professions du droit, de manière structurée, intelligente, mais il faut les rendre possibles. Il faut faciliter une prise de conscience chez nos jeunes confrères notamment que d'aller chercher des compléments de formation et des compléments d'expression de leur talent dans d'autres formations ou à l'étranger sont compatibles avec notre profession. Parce que souvent on conçoit notre profession comme très linéaire. On est avocat dans un barreau et on ne le quitte plus. Ou alors si on le quitte, c'est dans le cas d'un échec. Donc ça, il faut mettre de côté cette idée. Il faut multiplier les relations avec les autres barreaux étrangers, mais surtout avec les universités. Rien n'est plus important, selon moi, que la convergence des formations. Et il faut intégrer la culture internationale dès les premières années de l'université. C'est-à-dire qu'il faut expliquer ce qu'est la compliance, ce qu'est la soft law, comment se construit la norme juridique, comment se construisent les normes juridiques à l'étranger, de manière à ce que très très vite, le juriste français, avant même d'être devenu avocat, soit compatible avec un environnement qui est désormais complètement globalisé et que lui conçoit dans la vie quotidienne comme déjà globalisé.
Dans le rapport sur l'avenir de la profession d'avocat dont vous êtes l'auteur, vous indiquez que près de 30% des équipes juridiques sont constituées de titulaires du CAPA.
Oui.
Le juriste d'entreprise est-il autre chose qu'un avocat in-house dédié à l'activité de son entreprise ?
Alors, ça dépend de son talent. Il est effectivement un juriste qui est dédié à une entreprise ou à un groupe de sociétés. Ça, c'est une chose. Je reconnais aussi, à travers le chiffre que vous rappeliez, le talent de la formation des avocats, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de juristes d'entreprise, sachant que la profession de juriste d'entreprise n'obéit pas dans sa sélection à un diplôme spécifique. Quelqu'un qui est en quatrième année de droit à l'université peut devenir juriste d'entreprise. Quelqu'un qui a exercé comme avocat pendant 15 ans peut devenir juriste d'entreprise. Donc il y a une très grande variété des parcours. Mais je constate effectivement à travers le chiffre que vous rappeliez que la formation des avocats est une formation très formatrice et très valorisante pour les juristes d'entreprise. Ce que cet avocat devenu juriste d'entreprise va apporter en plus, je pense, c'est une connaissance intime des questions de déontologie, de conflit d'intérêts, autant de choses qui, lorsqu'on les appelle éthiques professionnelles, sont parfaitement compatibles et sont déjà intégrées par les entreprises. C'est pour ça qu'il n'y a plus grand-chose en réalité qui pourrait nous séparer intellectuellement et juridiquement d'une convergence plus forte entre les professions. C'est ce que je souhaite en tout cas.
Comment percevez-vous l'appétit des jeunes avocats de faire de la mobilité un moyen d'avancement de leur carrière ? Est-ce que le métier de juriste est mieux à même de répondre à cette préoccupation auprès des diplômés du CAPA ?
C'est possible, effectivement. Vous avez raison de le présenter comme ça. D'abord, la mobilité internationale de l'avocat, la projection internationale qu'il peut avoir de sa carrière, est en réalité la conséquence naturelle de phénomènes qu'il voit dans la vie de tous les jours. Les gens se déplacent, s'installer à l'étranger, voyager à l'étranger, s'interpénétrer des cultures étrangères est un acte quotidien, presque usuel aujourd'hui. Les réseaux sociaux, les liens qu'on continue de maintenir avec ses camarades font en sorte qu'on est presque aussi proche de quelqu'un qui habite aux antipodes que de quelqu'un qui habite dans votre rue. Donc cette question de mobilité internationale, cette projection internationale sont maintenant dans l'ADN des jeunes diplômés. Pas seulement des avocats, mais des jeunes diplômés. Et effectivement, à certains égards, les entreprises, à l'intérieur desquelles il y a des projets de mobilité, pas toutes les entreprises bien sûr, mais les plus grandes, qui sont des laboratoires de mobilité, des laboratoires de management, notamment pour les juristes, offre aujourd'hui des carrières internationales aux juristes. Le juriste aujourd'hui, même qui exerce à Paris, travaille avec des antennes, des filiales de son entreprise ou des sociétés sœurs de son entreprise et des juristes d'autres cultures tous les jours. Donc c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, on peut légitimement penser qu'il y a des contacts plus fréquents et plus réguliers avec la sphère internationale. Donc attention, attention, si nous ne créons pas les mêmes opportunités, la même appétence dans notre profession, il va de soi que les jeunes avocats iront chercher dans les entreprises et ils auront raison de le faire, la satisfaction de ce désir, qui est un désir très légitime.
Comment pensez-vous que ce rapport va être perçu par la profession ?
Duquel vous parlez ?
Le rapport sur les quatre défis de l'avocat.
D'abord, je trouve que c'est un rapport formidable, que c'est un rapport innovant, que c'est un rapport qui ose prendre un certain nombre d'initiatives, de bousculer un certain nombre d'idées reçues, et je trouve ça très salutaire. Je vous souhaite aussi bon courage, parce que j'ai vu la manière dont certaines de nos propositions avaient été accueillies par la profession, avec des réflexes défensifs assez forts, qui viennent aussi d'une erreur d'appréciation générale de la part de beaucoup de nos institutions, qui pensent que la profession est avant tout judiciaire et individuelle, alors que c'est une profession qui est ouverte à l'international, qui est une activité de conseil. Et je rends hommage, justement, à l'imagination qui a été déployée dans ce rapport. Je ne sais pas quel sera son indice de pénétration dans les institutions. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur des institutions, qui seront très heureuses de lire ce qui est dans ce rapport. Donc il ne faut pas hésiter à le pousser, à le promouvoir dans les cercles les plus larges possibles. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça marchera.